Enregistrés. Hein, donc les enseignements sont enregistrés et certains, je sais qu'ils n'ont pas pu venir, donc ils m'ont demandé, mais aussi parce que comme ça on peut le réécouter éventuellement et ça permet aussi, si jamais on loupe une fois, de ne pas être complètement largué, même si je ne pense pas que ce soit le cas, mais voilà. Donc ça permet de pouvoir suivre. Maintenant, je le dis pour les auditeurs et pour vous, je pense que ce genre de démarche, c'est bien de le vivre en communauté aussi. Hein, donc le vivre chacun chez soi quand on ne peut pas faire autrement, très bien. Mais quand on peut, le vivre en communauté, c'est mieux. Hein, parce que là aussi, il y a des dimensions de renouvellement d'une paroisse qui passent par la dimension communautaire et pas simplement individuelle, les deux n'étant pas opposés, mais complémentaires. Voilà, donc, alors il y a des livrets au fond, là, à prendre. Donc pour ceux qui écoutent aussi, donc il y a des livrets, parce que je n'ai pas enregistré tout à l'heure, il y a des livrets, donc vous pourrez les récupérer en venant à la prochaine rencontre. Voilà. Et s'il en manque, j'en referai faire. Voilà. Alors, première chose, l'introduction. Nous sommes faits pour le bonheur. Hein, nous sommes faits pour la béatitude. Qu'est-ce qui va se passer au ciel? Nous serons comblés par Dieu et nous serons dans le bonheur et... Nous, en tant que chrétiens, nous savons que dès ici-bas, nous devons le vivre. Et tout homme, chrétien ou pas, aspire au bonheur. S'il y a une chose qui est commune à tous les hommes, même celui le plus grand criminel, c'est qu'il cherche le bonheur. Même celui qui fait les pires bêtises. Et donc, nous, chrétiens, nous pourrions attendre le ciel pour être heureux. Mais comme nous devons vivre déjà des réalités du ciel sur terre, eh bien, le changement, c'est maintenant. Alors ça, c'est pas une prise de position politique, même si ça, maintenant ça commence. Mais le changement, c'est maintenant, parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a certains aspects de notre vie que nous ne vivons pas comme des chrétiens. Et sans doute, cette dimension-là, cette manière de regarder le monde et la vie dans la gratitude, dans l'action de grâce, parfois nous ne le vivons pas, enfin trop facilement nous ne le vivons pas, on râle trop. Parce qu'on est français, mais aussi parce que ça fait partie du tempérament de la majorité des êtres humains, c'est-à-dire de voir ce qui lui manque, comme un enfant qui lui manque, pour qui il manque l'essentiel. Et on sait que, d'un point de vue chrétien, c'est aussi le fait qu'on a le sentiment d'abandon de Dieu, alors que c'est nous qui nous l'avons quitté, mais voilà. Et donc on râle trop, et cette attitude d'insatisfaction nous entretient, gâche toute notre vie en fait, nous entretient dans une manière de regarder la vie et le monde qui nous rend malheureux. Donc il y a un cercle vicieux qui se crée, hein, le fait de s'entretenir dans la morosité. C'est un vrai mystère en France, parce que l'économie française va pas trop mal, et pourtant... La majorité des Français ne sont pas satisfaits, et pourtant ils disent qu'ils sont satisfaits dans certains lieux. Bon, c'est comme ça. Enfin voilà. En tout cas, ils râlent. Bon, c'est peut-être simplement comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes appelés à sortir de ce cercle vicieux et à rentrer dans une autre démarche, qui est une démarche proprement chrétienne. Donc chaque rencontre, nous allons la vivre de cette manière. On aura un petit temps de prière au début. Là, c'était très court. La prochaine fois, peut-être, ce sera un petit peu plus long. Ensuite, on aura... un petit temps d'enseignement. Vous pourrez prendre des notes en suivant. Hein, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé le déroulé de votre truc. Là, je suis dans l'intro. Et puis, ensuite, des petits exercices. Enfin, cette fois-ci, par exemple, on aura un exercice. En fonction de l'heure, on verra combien de temps on prend pour ça. Et puis, ensuite, des leçons à faire toute votre semaine, c'est-à-dire des exercices à faire la semaine, et vous les avez sur votre livret. Je vous invite aussi à ne pas prendre connaissance de tout le livret tout de suite, pour pas gâcher le plaisir, mais de vraiment vivre semaine après semaine, étape après étape. Ça va l'accompagner le carême. Et puis, comme c'est quelque chose qui s'acquiert progressivement, il faut un peu de temps, il faut se donner du temps. Il ne faut pas donc tout engloutir dès la première soirée. Voilà. Pardon ? Sommaire. Je vois pas. Non mais je suis désolé, hein, je suis pas trop. la puissance de la gratitude. Oui, mais attends, on va venir. Je suis pas encore. Alors, donc, autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'engager dans la durée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'école d'oraison déjà, mais l'école d'oraison, on le disait au début qu'il fallait s'engager dans la durée, mais et que c'était le piège dans l'oraison, c'est d'arrêter, et de fait, beaucoup arrêtaient. Donc ça, c'est un constat, parce qu'il faut dépasser les premières résistances, les premières difficultés, les premières où on se dit ouf, je progresse pas ou je sais pas quoi, et donc il faut dépasser ce stade-là pour avancer. Et donc il faut déjà, je vous invite en tout cas intérieurement, à vraiment vous décider pour être fidèle pendant tous ces 40 jours qui viennent. Et puis après, vous aurez acquis une nouvelle vertu, et donc normalement ça se continuera, ça s'entretient toujours, mais ça se continuera, ça sera plus facile. 40 jours, c'est voilà, c'est une manière d'acquérir des nouvelles habitudes. Vous savez qu'en psychologie, moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, eh ben, quand on veut sortir d'addiction et tout ça, il faut 40 jours. Hein, c'est une étape, et il se trouve que la tradition de l'Église nous donne 40 jours de carême, donc c'est merveilleux. Et donc, sortir d'addiction, mais aussi prendre des nouvelles habitudes, il faut 40 jours. Hein, si, tant qu'on n'a pas fait ces 40 jours, on n'est pas sûr de prendre la bonne habitude. Donc voilà, donc je vous invite à vraiment vous engager. Il y aura des tentations. Vous serez tenté de ne pas le faire, vous serez tenté de ne pas venir, ça c'est sûr. Parce que surtout avec le prédicateur. Non, mais vous vous direz, bon, ça sert, c'est peut-être pas si grave. Et puis ce soir, je vais aller au ciné, ça sera plus simple. Voilà. Bon. Ou bien je vais regarder la télé, ou bien je vais faire autre chose. Bon. Et c'est une tentation. Je vous le dis tous, déjà. Ne vous laissez pas tenter par l'ennemi. Voilà. Bien. Alors, pourquoi un tel parcours ? Donc là, c'est le début de votre truc. Pourquoi un tel parcours ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la gratitude, alors je l'ai un petit peu déjà abordé, la gratitude a des effets surprenants, stupéfiants même. Ils sont nombreux, ils durent dans le temps, ils sont durables, et la science le prouve, en psychologie aujourd'hui, plusieurs centaines d'études le montrent. Ils concernent toutes les dimensions de l'homme, donc les bienfaits, hein, son corps, esprit et l'âme. Donc ça, c'est quelque chose de vérifié par la science, par la psychologie, tout ça. Alors, justement, je fais déjà une petite complément qui est présent dans le bouquin, parce que je voulais en parler déjà, puis j'ai vu que c'était un bouquin. Que penser du développement personnel ? Parce qu'en fait, là, on voit que la gratitude nous fait rentrer dans une attitude que certains chrétiens n'aiment pas beaucoup, et parfois avec raison, je vais le dire, c'est la question du développement personnel, c'est-à-dire se développer pour soi-même. Alors, il faut être bien dans sa peau, certes, mais on sait que chrétiennement, c'est pas tout à fait uniquement ça. Donc, alors, déjà, la première chose, c'est que dans le développement personnel, les exercices de développement personnel, tout n'est pas mauvais. Au contraire, même, il faut regarder que la principale qualité de ces pratiques nous donne des bons conseils pour nous aider concrètement à changer d'habitude. Hein, donc, il y a des bons conseils dans ces domaines. Et ce parcours s'inspire de ces bons conseils du développement personnel qu'on retrouve dans tous les trucs. Il y en a certainement à la roche, d'ailleurs, si vous cherchez bien. Voilà. Seulement, il y a des défauts. Il y a deux défauts principaux. Hein, le premier défaut, c'est que le développement personnel est souvent pélagien. Alors, j'y reviendrai peut-être rapidement après. Pélagien, ça veut dire qu'on fait tout par la force du poignet. C'est moi qui y arrive, c'est moi qui me transforme, tout seul, comme un grand. Et on ne compte pas du tout sur Dieu. Or, l'attitude chrétienne, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais c'est nous qui accompagnons l'œuvre par toute notre force personnelle. Hein. Ça veut dire qu'on a une détermination très, très forte. Hein. On est vraiment... Et puis on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Mais seulement, on compte sur Dieu, parce que c'est la grâce de Dieu qui doit nous transformer. Et c'est elle qui nous transforme au final. Et ça fait un meilleur résultat, un résultat en particulier de sainteté. Voilà, ça c'est le premier défaut du développement personnel tel qu'on le voit sans la foi, sans Dieu. Le deuxième défaut du développement personnel, le second défaut, c'est que c'est sans doute le défaut qui vient en première vue d'ailleurs, c'est que c'est souvent très narcissique. Le développement personnel, c'est pour soi-même, on tourne sur soi-même, on tourne en rond, et puis on n'en sort pas, et puis on est bien, on n'est pas bien, et tout ça, on est dans l'introspection. Or, là c'est pareil, c'est pas du tout chrétien. Hein, c'est-à-dire que nous, on n'est pas pour nous-mêmes, on n'est pas pour ce... pour se trouver bien. Il faut être bien. Le Seigneur nous veut bien. Il veut nous restaurer, il veut nous sauver, il veut nous guérir. Mais c'est pour autre chose, c'est plus grand que nous. Hein. Et on verra aussi la dimension de la croix, la présence de la croix dans la vie, dans notre vie. Voilà, donc la première raison, c'est que les effets de la gratitude sont stupéfiants dans tous les niveaux de notre vie. Et donc, ça s'apparente aussi à des exercices de développement personnel. Mais là, on va le vivre de façon très chrétienne. La deuxième raison pour un tel parcours, c'est que la gratitude est une attitude qui est au cœur de la foi chrétienne. Ça, je l'ai un petit peu dit, mais vous savez que l'Eucharistie, ça veut dire en grec « rendre grâce », « action de grâce », ça veut dire « remercier ». La messe, c'est une action de grâce. Alors, c'est un sacrifice en même temps, et c'est intéressant de voir, justement, dans une vision chrétienne, comment le sacrifice peut être aussi action de grâce, et comment il peut être vide en... C'est un sacrifice d'action de grâce, d'ailleurs, parfois on dit comme ça. Voilà, la messe, une grande prière de gratitude vis-à-vis de Jésus qui nous a tout donné, qui est mort pour nous, qui nous a sauvés en donnant sa vie. Hein, si vous regardez bien la messe, c'est très clair, prière eucharistique en particulier. Voilà. C'est quand même un peu dommage que pour nous chrétiens, qui avons cette attitude du cœur, au cœur de notre foi, nous n'en parlions pas plus de la gratitude et que nous ne cherchions pas davantage à la vivre. C'est pour cela que l'auteur a voulu faire le parcours. Voilà. Alors, feu d'artifice de bienfaits. La gratitude. Alors, c'est. Hein, la gratitude. Et de toutes les attitudes intérieures, la plus bienfaisante. Donc c'est une attitude intérieure. Hein. Donc l'extérieur de vos vies, de nos vies, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de vie, finalement, qui est pénalisée vraiment, hein, même si on peut dire, bon. Mais le problème n'est pas l'extérieur, le problème n'est pas notre vie, c'est simplement un changement de regard sur notre vie. Et donc, c'est une attitude intérieure, et ça, cette attitude intérieure est parfaitement et particulièrement bienfaisante. Ses effets sont spectaculaires. Bienfaits sur le corps. Donc ça, c'est les études qui le prouvent. Donc c'est une attitude qui favorise le sommeil. Hein, quand on est dans l'action de grâce, on dort beaucoup mieux. Quand on a des soucis, voilà. Et comme me disait un prêtre il n'y a pas longtemps, tu te couches avec le souci, le lendemain matin, tu te relèves avec le souci. Donc il ne faut pas se faire de problème. Le souci reste, voilà. Et un souci pousse l'autre, donc il ne faut pas s'inquiéter non plus. Bon, la gratitude favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps et plus profondément si elle est dans la gratitude. Ça, c'est des études qui prouvent ça. Ça diminue le stress. Ça enlève du stress dans nos vies. Elle a des effets bénéfiques sur le cœur, sur le diabète, et diminue le vieillissement, paraît-il. On vieillit moins vite. Tant mieux. Il y a des études qui ont montré jusqu'à 7 à 10 ans de décalage. En fonction des gens dans la mesure. Donc c'est quand même dingue. Hein. Bon, en même temps, nous on est fait pour le ciel, mais quand même. Bon. Ça nous permet, on a plus de temps pour se convertir. Voilà. Et donc augmente la durée de vie. Voilà, bon. Ensuite, ça a des bienfaits donc sur le corps, ça a des bienfaits sur le psychique et le mental. La gratitude favorise des sentiments agréables comme la joie, l'amour. La satisfaction, on pourrait rajouter, je pense, la paix, parce que l'amour, la joie, la paix, ce sont les trois premiers fruits du Saint-Esprit, ceci dit en passant. La satisfaction vis-à-vis de la vie, voilà, diminue les sentiments désagréables comme le stress, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression, les risques de suicide. Bon, évidemment, ça aide. En tout cas, voilà, ça favorise des sentiments agréables psychologique. La gratitude fortifie la volonté, hein, elle nous aide à atteindre les objectifs. Nous avons en effet plus d'énergie quand nous sommes dans la gratitude, quand nous sommes positifs, quand nous sommes dans l'action de grâce, que lorsque tout va mal. Enfin, quand nous disons que tout va mal. Il fait grandir donc l'estime de soi, augmente la motivation, donne du sens à la vie, donne confiance dans le futur. Donc voilà, ça donne un autre regard sur nos vies. Voilà. Et la gratitude, alors là, c'est truc. Moi, je dis ce qu'on me dit, hein, parce que là, pour le coup, je n'ai pas vérifié. La gratitude est favorable financièrement. Je ne sais pas si les protestants qui disent ça, possible. Elle diminue la sensation de vivre de vide intérieurement. Ah oui, c'est ça. Et elle réduit aussi les comportements de compensation par la surconsommation, les achats compulsifs, les excès de nourriture. En fait, ça nous donne un bien-être qui fait que, en fait, on fait pas de, on rentre pas moins facilement dans l'hyperconsommation. Et je ferai, parce que dans le livre, il développe ça, je ferai un ajout à un enseignement sur l'hyperconsommation, justement, pour pouvoir nous aider à y voir clair et à prendre les bonnes dispositions. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Voilà. Et la gratitude a donc d'autres bienfaits. Bienfaits sur le corps, sur le psychisme et le mental. Alors maintenant, ce qui est plus du domaine finalement de la charité. Enfin, c'est comme ça que moi je le résume. La charité, donc en trois points. Le bienfait dans le relationnel. La gratitude améliore la relation aux autres. Hein, elle fait régner un climat de paix, de joie, facilite la communication. C'est plus agréable d'aller vers les autres quand on est un peu bien en soi-même, hein, n'est-ce pas ? Augmente l'attention aux autres, favorise la bienveillance. Hein, c'est plus facile de se détourner de soi quand on n'est pas nourri intérieurement par des problèmes, enfin, par des idées noires. Et elle diminue la violence. Dans la vie du couple aussi, hein, ça j'ai pas à vérifier non plus, elle aide énormément car elle favorise la relation du couple. Elle dispose au don de soi qui est le cœur de l'amour. Elle est un facteur qui augmente la durabilité du couple. Voilà, bon, ça je vous le livre, je pense que c'est vrai. Voilà. Dans le travail, dans notre travail professionnel, enfin ou non, mais dans le travail, elle contribue grandement à la bonne atmosphère dans le travail. Elle augmente la motivation et l'efficacité des équipes. Quand on est dans la gratitude. Voilà. L'attitude, alors tout ça c'est le relationnel, l'attitude de gratitude nourrit les liens entre les personnes, elle permet le changement de regard sur les situations, elle unifie et le pacifie. C'est pour ça que dans une paroisse, ça peut être intéressant. Elle accroît l'intégration sociale. Plus une personne a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus elle est appréciée. Ça c'est... On est tous d'accord. La gratitude favorise la confiance envers les personnes et la réciprocité. Donc elle fait un appel, mais on va y revenir là-dessus. Elle fait appel à un retour qui se fait plus facilement. Voilà. Et là, et toujours dans le domaine... j'ai rajouté, elle fait sortir du matérialisme. Elle fait sortir du matérialisme, c'est-à-dire de inconsciemment, on se rassure, on se console par notre confort matériel, et c'est très présent chez nous, hein, dans nos régions, dans nos pays riches. Même si on se dit pauvre, on est quand même riche. Voilà, donc, voilà. Et ça, je verrai sur la question de l'hyperconsommation plus tard, dans une autre... Voilà. L'autre point des bienfaits de la gratitude, c'est le bienfait sur la relation à Dieu. Donc c'est le quatrième point dans vos livrets, là. Bienfait dans la relation à Dieu. Donc, là, on l'a dit, la gratitude est au cœur de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Elle est au cœur de la vision du monde. Tout est sorti de Dieu par amour. Dieu a tout créé. Tout retourne vers Dieu. Chacune des créations fait retour vers Dieu selon son ordre. Les créatures spirituelles que nous sommes retournent vers Dieu par la louange et l'action de grâce. Donc, c'est une réponse à notre vocation, en fait. Hein. Nous sommes appelés à la louange et à l'action de grâce. Alors là, il y a une petite citation que vous avez aussi sur vos carnets. « L'œuvre la plus propre à Dieu est de répandre ses bienfaits. La plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. » Donc la seule manière de répondre à Dieu pour... les bienfaits qu'il donne au monde, c'est l'action de grâce. Hein, on ne peut pas faire autre chose. Voilà. Donc la gratitude au cœur de la vie chrétienne est la gratitude, la cascade du don. La gratitude nous rend meilleurs. Hein, donc ça, c'est une conséquence aussi très intéressante. Parce que l'on m'a poussé... Parce que, voilà, parce que, pardon... La cascade du don. Parce que l'on m'a donné, j'entre dans la gratitude, je reconnais ce que j'ai reçu, j'entre dans la gratitude, et cela suscite en moi le désir de rendre, de redonner. La gratitude me pousse à faire de même et entraîne les autres à faire de même. La gratitude augmente le comportement altruiste, y compris vis-à-vis des personnes qui ne nous ont rien apporté et que nous ne reverrons jamais. Alors donc là, il y a un petit exemple qui, je pense, est très américain. Je ne suis pas sûr que ça marche en France. Pour essayer, on verra. Voilà, un exemple, voilà, des plus frappants, qui s'est passé dans un restaurant de Philadelphie aux États-Unis en 2009. Deux amis, au moment de payer, apprennent que par la serveuse qu'un couple qui vient de sortir a payé pour eux. Donc, voilà. Donc c'était trop tard, ils ne pouvaient pas les rattraper. Vous avez compris ? Je suis clair parce que je ne suis pas sûr d'être clair. Stupéfaction des deux amis qui décident spontanément de payer le repas de quelqu'un d'autre. Une des serveuses témoigne, les larmes aux yeux, que cette épidémie de générosité durera pendant 5 heures. Cela a continué pendant 5 heures. Non seulement les personnes payaient pour d'autres, mais elles ne s'inquiétaient pas du prix et laissaient un généreux pourboire. Ça les faisait rentrer dans une générosité qui n'était pas prévue au départ. Voilà, c'est très impressionnant parce que cela change le monde. Alors, je ne sais pas si en France ça marcherait, j'en sais rien. Essayez, prochaine fois vous... Alors, la quête, je ne suis pas sûr parce que... Si vous donnez la quête pour le voisin, peut-être, je crois. Essayez. Hein ? Ah oui. Oui. Oui, ouais, pour les SDF, ouais, c'est ça. Enfin, voilà, donc c'est cet enchaînement qui est de générosité, en fait. Voilà, gratitude et la louange. Là, c'était la charité un peu plus. Là, c'est plus la louange. Gratitude et louange se nourrissent l'un l'autre. On pourrait dire que la louange est l'expression de la gratitude. Pour nous chrétiens, c'est clair. La gratitude est d'abord cette attitude intérieure de notre cœur qui reconnaît un bienfait. Ce mouvement intérieur suscite un mouvement extérieur de remerciement, de louange vis-à-vis du Créateur, de qui provient tous les bienfaits. À son tour, ce mouvement de louange accroît ma reconnaissance des bienfaits. Ça nous fait rentrer dans un cercle vertueux. C'est donc un cercle vertueux. La gratitude se traduit en louange. La louange fait grandir notre gratitude. Donc là aussi, c'est des effets positifs. Tout ceci fait de la gratitude l'attitude intérieure la plus bienfaisante. Maintenant, nous allons voir, on va commencer à... Là, c'était un peu les fruits, tout ça, pour donner envie, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes. Maintenant, on va voir les 3 étapes pour entrer en gratitude. La gratitude est la réponse à un bienfait. Elle est un acte qui se déroule en 3 étapes. Première chose... Alors, on aura des difficultés les uns ou les autres sur l'un ou l'autre, mais voilà, on verra ça. Première chose, reconnaître le bienfait que j'ai reçu. Voilà. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Première chose. La gratitude naît de la prise de conscience d'un bienfait. Je prends conscience que j'ai reçu une aide, un don d'autrui. Parfois, ça bloque déjà, dès le démarrage. Parce que là, j'arrive pas à reconnaître. Donc, voilà. Mais on a tous plein de choses, d'éléments pour rendre grâce. Et donc, il nous faut faire l'effort de trouver des points, des moments, voilà, de bienfaits qu'on a reçus, hein, des moments forts, des moments beaux. On va voir un petit peu après. Et puis, on va rentrer dans la deuxième attitude, c'est qu'il faut se donner l'autorisation de ressentir et d'être touché par ce bienfait, par la joie que nous a procuré ce bienfait. Ce bienfait passé, ou même présent, mais dont on s'est tellement habitué qu'on ne considère plus comme un bienfait. Donc il faut se laisser ressentir et être touché. Et là aussi, il faut s'autoriser. Parce que quelquefois, il y a des gens, on peut se sentir, on dit, il y a tellement de problèmes, j'ai tellement de problèmes que je n'ai pas l'autorisation. Bon, ben là, il faut passer au-dessus. Voilà, je ressens une émotion, une gratitude, émerveillement, reconnaissance, joie. Lorsque je prends conscience du bienfait dont je bénéficie, je prends le temps de goûter cette émotion. Hein, donc il faut se donner cette autorisation, il faut prendre le temps de goûter. Ce n'est pas égoïste. Troisième étape, remercier pour le bienfait. Là aussi, on peut avoir des difficultés. Je suis poussé intérieurement à agir. Je rends grâce pour le bienfait. Je remercie la personne à qui je dois ce bienfait. Je me réjouis de ce que j'ai reçu. Voilà. Donc parfois, on peut avoir du mal. On peut avoir du mal à dire merci. Il arrive qu'on puisse avoir des blocages à ce niveau-là aussi, à dire merci aux autres, à dire merci à Dieu. Il faut voir que parfois, on s'est construit de telle manière que on s'aime malheureux, comme ça. Il y en a qui disent, moi, si je ne suis pas malheureux, ils ne vont pas se dire consciemment, mais si je ne suis pas malheureux, je n'existe pas vraiment. Hein, c'est parce que je suis malheureux qu'on peut me reconnaître comme étant vivant. Parce que c'est vrai, si je suis bien, on ne va pas me plaindre. Hein. Si je suis en forme, tout ça, on ne va pas me plaindre. Ces trois étapes correspondent, donc ces trois étapes, hein, reconnaître, ressentir, remercier, voilà, correspondent aux trois facultés de l'être humain. Donc ça, vous l'avez à la page suivante dans votre livret, numéro 6, page 6, numéro 4. Trois facultés. La première, la reconnaissance, correspond à la tête, l'intelligence, la mémoire aussi. Hein, donc reconnaître le bienfait reçu. La réflexion. La deuxième étape, laisser jaillir, se laisser toucher, ressentir, l'émotion correspond à l'affectivité, c'est-à-dire au cœur. Vous l'avez. Et puis, la troisième, le remerciement, correspond à la volonté, hein, donc l'action, la volonté, la main, hein, donc les symboles physiques. Vous avez les trois facultés de l'être humain. Et puis en dessous, la relation au temps. Notons que cela correspond exactement à trois moments de notre vie. Le passé, pour l'intelligence, la mémoire. Le présent, parce que c'est dans le présent qu'on va être touché. On va pas être touché dans le passé, hein, mais dans le futur. Et le remercier, c'est le futur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Rentrer dans la gratitude et avoir une attitude de gratitude. Voilà. Vous avez ce petit schéma qui résume. Troisième partie. Comment devenir des personnes habitées de la gratitude? Alors, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi j'étais une formation dominicaine, thomiste, c'est les vertus, le développement des vertus. C'est plus du tout à la mode. Pourtant, les vices sont très à la mode. Hein. Les vices, c'est l'inverse des vertus. C'est les mauvaises habitudes, là, il y en a plein. Mais par contre, les vertus, et pourtant, être vertueux, c'est vraiment génial. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, hein, mais on cherche à l'être. Alors, pour une vertu, c'est une habitude bonne, un habitus bon. Hein, c'est une bonne habitude. Mais c'est l'habitude, ça veut dire que c'est presque un réflexe, quelque chose de presque naturel. La vertu, c'est un peu comme un vêtement, on l'a repassé et le pli reste. On a pris un bon pli. Voilà. Bon, pour cela, il faut passer plusieurs fois le fer à repasser. Et donc, il faut faire des exercices. Hein, la vertu de gratitude, il faut répéter sans cesse un certain nombre d'exercices qui va contrarier le vêtement au départ, qui va nous contrarier au début parce que c'est pas du tout... ça ne nous caresse pas dans le sens du poil, parce qu'on n'a pas envie d'être plié comme ça, on a envie d'être plié autrement. Mais, voilà. Nous allons faire une multitude de petits exercices de gratitude pour que, forcé, à force de répéter, cette habitude s'imprime en nous et devienne comme une seconde nature. Voilà. La répétition crée la transformation. Hein, ce n'est pas la méthode Coué. Hein. La méthode Coué, c'est de se convaincre un truc, pas toujours vrai d'ailleurs, un truc à force de se le dire. Mais là, c'est vraiment dans l'action, hein, soit l'action de grâce, soit d'attitude intérieure. Voilà, on cherche à répéter des... C'est pour ça que les exercices, il faut les faire dans son fauteuil, mais il ne faut pas les faire que dans son fauteuil, ça ne va pas marcher. Hein, ce n'est pas un truc qu'on se laisse faire. C'est un axe de volonté. La vertu se développe comme un muscle. Plus À force de répéter « nous nous transformons », plus on fait le mouvement, plus le muscle se fortifie. Voilà. Mais le muscle, ça dit bien aussi, ceux qui font du sport le savent, parfois il faut forcer, quoi, hein, si on veut progresser. Hein, et donc ça peut être un peu dur. Voilà. Donc un petit exercice de base, là, qui fera partie des exercices que vous avez à la page suivante, à page 7, mais qu'on ne va pas faire aujourd'hui, que vous ferez tranquillement de votre côté, c'est d'acheter un carnet, de vous fournir un papier, un carnet de gratitude, pour noter tous les jours trois choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Et je crois qu'au début, ça peut être compliqué, mais à la fin, trois ne sera pas suffisant. Voilà. Mais au début, ça peut être compliqué, parce que notre regard sur notre journée ne se passe pas comme ça. On ne le regarde pas comme ça. Alors, ça va très bien, parce que vous savez qu'un bon chrétien fait l'examen de conscience en fin de journée. Donc, alors souvent, l'examen de conscience, ça aide à la confession. On se dit, tiens, ça va pas. C'est bien de faire ça, il faut continuer. Moi, je vous encourage à vous confesser régulièrement et faire des examens de conscience. Mais aussi, rendre grâce. Parce que c'est quand même deux pendants de la même réalité. Hein. Savoir reconnaître les bienfaits que nous avons reçus. Et donc, ça, c'est pas de l'orgueil, parce que c'est pas en train de rechercher ce que j'ai fait de bien. C'est pas la même chose, hein. C'est simplement les... Voilà, qu'est-ce que... Voilà, noter pour se souvenir, créer, et voilà, noter ce souvenir, ressentir et remercier. Et si c'est possible, on peut partager avec un conjoint ou avec un ami, voilà, qu'est-ce qui a été magique dans ta journée aujourd'hui. Voilà, et parfois, là on ne va pas le faire aujourd'hui, mais parfois on fera des petits groupes pour éventuellement partager un peu entre nous. Alors, moi, je suis pas du tout un... J'aime pas du tout les petits groupes. Mais parfois, c'est bien, justement, pour partager un peu comment je vis les choses, même si, voilà, on a du mal, et bien on se le dit, et on s'entraide fraternellement, on s'encourage. Voilà. Mais en tout cas, si on peut le dire entre amis, ceux qui sont accompagnés spirituellement, c'est bien d'en parler aussi. Hein, et surtout que la gratitude, ça s'entretient au-delà du carême. Donc, voilà. Et de ne pas rester simplement tout seul face à ces efforts-là. Voilà. Alors, ça c'est la première chose, c'est répéter, créer la vertu. Hein. Donc la vertu chrétienne, il y a la grâce de Dieu. Hein. Et là, je vais y revenir maintenant, c'est le deuxième point. C'est que nous, chrétiens, nous ne faisons pas ça par la force du poignet. C'est la grâce. C'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts personnels. Premier point, le primat de la grâce. Hein, se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude est l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de mes efforts personnels. Mais même mes efforts sont déjà une œuvre de grâce. Parce que la grâce, quand on étudie la théologie de la grâce est avant, pendant et après, hein, toujours. Hein, la grâce de Dieu nous entoure, en fait. C'est l'Esprit Saint, hein, aussi. C'est un autre nom de la grâce. Hein. Car c'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté et l'action, nous dit saint Paul en Philippiens. C'est donc à Dieu que tout le mérite de mes vertus revient. Hein, donc, en fait, c'est vraiment pour nous chrétiens, et ça c'est vraiment un truc génial pour ne pas se décourager, c'est que c'est la grâce qui est première. Il faut arrêter de regarder ses incapacités. Voilà, la grâce de Dieu est là, elle m'accompagne, elle m'aide, et même quand je chute, elle est là. Hein, je n'ai rien à craindre. Voilà. Il y a un équilibre entre deux écueils à éviter donc dans ce travail, entre le volontarisme, le pélagianisme dont je parlais tout à l'heure, et le laisser-faire, le quiétisme. Une sorte de... On dit, le Saint-Esprit va bien se débrouiller, puisque c'est ce qu'il veut. Voilà. Ou bien le volontarisme, le pélagianisme, où c'est par la force des poignets, voilà... Alors c'est là que c'est différent du sport de ce point de vue-là. Parce que le sport, de fait, à moins que le Saint-Esprit soit le vent, quand on a le vent dans le dos, ça va mieux pour courir. Mais sinon, bon, voilà. Nous, on travaille avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Et donc, voilà. Deux écueils symétriques. D'un côté, le volontarisme, qui consiste à croire que je ne dois compter que sur mes propres forces. De l'autre, le quiétisme, ou le laisser-faire, qui consiste à croire que Dieu va tout faire et qu'il suffit de prier. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi, dit saint Augustin. Donc voilà. Il faut prier, souvent et beaucoup, mais si je prie et que dans ma vie concrète, je ne sais pas de vivre l'évangile et de me forcer un peu et, voilà, et de rentrer dans la gratitude, etc., la prière, le pauvre bon Dieu, il ne pourra rien faire. Hein. Voilà, il nous attendra. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité tout dépend de Dieu, dit Saint Ignace de Loyola. Donc ça, c'est aussi sur votre feuille. Hein. Donc voilà, il faut tenir les deux, il faut tout faire, tout notre possible, et en même temps, savoir que c'est Dieu qui va agir. En fait, il s'agit de vivre les deux polarités à fond. Je dois mettre toute mon énergie pour me transformer, me convertir, tout en ayant bien conscience que le fruit est entièrement une œuvre de Dieu. Et finalement, être assez paisible par rapport à la question du fruit. Voilà. Troisième point, les trois temps de l'exercice de gratitude. Les exercices de gratitude comprennent les trois temps de l'acte de gratitude. Donc on les a déjà vus. Hein. Reconnaître, se souvenir, faire mémoire. Hein, d'ailleurs, un autre truc, parce qu'on pourrait le développer, moi j'ai pas assez réfléchi, mais on pourrait le développer, la messe et l'action de grâce, mais la messe c'est aussi un mémorial, c'est une mémoire. On fait mémoire d'un événement extraordinaire qui bouleverse le monde. Et grâce à ce mémorial, eh bien, des générations entières, des milliards d'hommes, on peut dire ça, hein, sont aujourd'hui dans l'action de grâce du salut et de la sanctification, grâce à cette mémoire. Voilà. Donc, reconnaître, se souvenir, faire mémoire. Je me souviens d'un moment que j'ai reçu un bienfait. Je me souviens des lieux, des personnes, des circonstances, des sons, des couleurs. Je fais en sorte que le souvenir soit le plus détaillé possible, plus précis possible. Alors là, bon, ça c'est un point aussi. On va faire un petit exercice, hein, après. Chacun pour soi. Hein. Ça serait trop long. Mais c'est un point sans doute important. C'est d'oser se souvenir, pas vaguement, souvenir assez précisément du moment de grâce qui nous a été donné. Un des moments de grâce a été notre naissance. Je sais pas, j'en sais rien, parce que je crois que c'est un peu traumatisant, je crois que pour le gamin, mais on s'en souvient pas vraiment, en fait. Mais voilà. Mais après, voilà, il y a des moments de grâce dont on se souvient vraiment, et on peut, en détaillant, et on peut rentrer dans la joie du moment, et voilà, parce que c'est le deuxième point. Goûter, quelle est mon émotion à ce moment-là. Je fais remonter cette même émotion et je goûte ce sentiment. Était-ce de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement, de la gratitude. Voilà, entrer dans cette... Et ensuite, remercier et rendre grâce. Je pose un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne à qui je dois ce bienfait et vis-à-vis de Dieu lui-même. Parfois, c'est que vis-à-vis de Dieu, d'ailleurs, pour certaines situations, hein, quand c'est des grâces spirituelles, voilà. Ou bien, par exemple, le don de la vie, hein, je fais allusion, là, on peut dire, bon, c'est nos parents, mais c'est aussi vraiment, on doit tout à Dieu, hein, on n'existerait pas sinon. Voilà. Donc, exercice pratique. Alors... Je vous propose là de faire quelques minutes comme cela. Déjà, première chose, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Vous l'avez décidé, ça a été compliqué de sortir de vos occupations, de l'excellent repas que vous avez pris juste avant, de vous organiser, etc. Il fallait dégager du temps. Mais en tout cas, vous êtes là, bravo. Et c'est déjà énorme pour rentrer dans ce chemin de la gratitude et pour entrer dans cette démarche de la gratitude. Et avant de faire un exercice pratique, je voudrais vous dire ceci. C'est bien comme vous êtes. Aujourd'hui, comme vous êtes, dans la situation où vous êtes, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de changer grand-chose. Enfin, vous n'avez rien besoin de changer, quoi que ce soit dans votre vie, parce que Dieu vous aime comme ça. Il vous veut saint, mais il vous aime comme vous êtes aujourd'hui. Il vous aime déjà, maintenant, comme vous êtes. Et pour cela, parce que nous, on le sait dans la foi, hein, pour cela, on peut déjà être dans la gratitude. On peut déjà rendre grâce. Alors déjà, merci. Et ça nous apaise, vraiment. Il faut s'autoriser à avoir de la gratitude. Avec ce que vous avez vécu dans votre passé, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous avez fait ou pas fait, vous avez le droit d'être dans la gratitude aujourd'hui et maintenant. Il faut s'autoriser, j'évoquais ça tout à l'heure. Il faut venir comme on est, et il faut savoir que Dieu nous aime comme nous sommes. En fait, parfois, on a des règles intérieures, des jugements très sévères, sur les autres certes, mais aussi sur nous-mêmes, et des blocages. On se dit, je n'ai pas le droit d'être dans la gratitude parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai loupé ci, parce que j'ai fait ça, parce que c'est comme ça, parce que j'ai loupé ma vie, parce que j'aurai toujours des malheurs. Il faut déposer ça. Il faut s'autoriser à avoir droit d'être heureux, d'entrer dans la gratitude. On en a le droit, j'en ai le droit, vous avez le droit. On peut prendre un instant pour vraiment déposer nos vies. Prendre conscience que nous sommes bien, même si nous pouvons faire des progrès, évidemment. Mais déjà, Dieu nous aime comme ça, comme nous sommes. Et nous avons le droit d'être heureux et dans la gratitude. Alors, maintenant, réfléchissons à notre journée qui vient de s'écouler. En quoi j'ai eu de la chance aujourd'hui? Voir ce que j'ai déjà. C'est un peu comme l'examen de conscience, mais dans une autre manière. On regarde la journée, on dit « En quoi j'ai eu de la chance aujourd'hui ?» Alors, on s'est trouvé il y a un moment. Hein. Il y a certainement un moment dans la journée où c'était très bien. Voilà, donc on se souvient de ce moment. On se met dans l'ambiance de ce moment. On reconstitue les lieux, les espaces, tout ça, les personnes. On respire calmement. On ressent la joie de ce moment que nous avons vécu aujourd'hui. La joie, l'étonnement, la gratitude, la consolation. Il faut se dire, maintenant, nous pouvons nous dire, j'ai eu de la chance, j'ai de la chance d'avoir vécu ce moment. Ma vie est belle. Et même si on ne sent pas vraiment la joie de ce moment, on n'arrive pas bien à percevoir, il faut le faire quand même, et puis essayer de goûter comme on peut. Et puis ensuite, maintenant, remercions, rentrons dans la gratitude. Sentir la gratitude grandir dans mon cœur. Sentir que je commence à changer intérieurement dans mon attitude intérieure. Presque pas dans mon marasme habituel. Alors merci Seigneur d'avoir eu la chance de vivre ce moment. Merci pour ce chemin que je vais faire avec le Seigneur pendant ce temps de carême. Merci pour toutes les grâces qu'il va me donner. Merci pour les changements qu'il va me permettre de vivre, pour l'état de gratitude qu'il va m'aider à vivre. Merci pour la vertu qui va se développer en moi. Voilà, donc c'est un petit exercice très simple. Je ne sais pas si vous avez réussi, mais ce n'est pas grave. Si c'est pas, ça n'a pas marché, vous aurez serré, ça marchera la prochaine fois. Voilà. Il y a des exercices qui vous sont mis là, donc vous essayerez de les faire. Vous avez les trois étapes, c'est important d'essayer de les faire. Il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qui m'a été difficile? Par exemple, est-ce que j'ai eu du mal à trouver le moment de la journée? Pourquoi? Alors dans ce cas-là, pourquoi j'ai pas eu de trouver le moment? Il faut se réfléchir, pourquoi je suis dans cet état d'esprit? Est-ce que j'ai eu du mal à ressentir les choses? Et pourquoi finalement j'ai eu ce petit blocage? Est-ce que c'est parce que je m'autorise pas, etc. Et puis il faut se demander aussi comment on se sent après. Important, parce que souvent, bon, il y a un sentiment de bien-être, en fait, on va mieux, on est mieux, d'un seul coup, on n'a plus les idées noires. En fait, avant, on regardait le verre à moitié vide, et d'un seul coup, on a vu le verre à moitié plein, ça va mieux. Et pourtant, c'est le même verre. Voilà. Donc, quand vous essayerez de le faire sur votre vie, vous pourrez regarder votre vie, la naissance de vos enfants, pour ceux qui en ont, une victoire, un moment fort entre amis, tout est possible. Hein. Il ne s'agit pas d'une grâce que Dieu m'a donnée, mais tout est possible. Hein. Il ne faut pas se limiter. Tout ce qui est occasion de gratitude, il faut l'accueillir comme un don de Dieu, parce que Dieu est présent dans toute ma vie, hein, sans exception. Voilà, là je fais un petit supplément. Sur trois étapes que vous avez pas dans votre livret. Alors, non, pardon, pas trois étapes, excusez-moi. C'est moi qui ai mal écrit. C'est cinq vérités qui nous permettent d'être dans la gratitude en toutes circonstances. Cinq vérités. Pour nous chrétiens, c'est important, et c'est pour ça que je souhaitais le dire dès aujourd'hui. Première vérité, le monde est dirigé par Dieu qui est bon. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que dans le monde, que certains diront qu'il va mal, Il y a un pilote dans l'avion. Dieu réalise son plan qui est un dessein de salut et d'amour. Il n'est pas dépassé par les événements. Il mène les choses à son terme selon le plan qu'il a lui-même établi. Hein, c'est une attitude vraiment de regarder l'histoire. Et moi, je me souviens d'une des premières homélies du pape Benoît XVI quand il est devenu pape, c'est de dire... L'histoire du monde est dans la main de Dieu et nous n'avons rien à craindre. C'est vraiment très, très fort quand on arrive à l'intérioriser. Il n'y a jamais rien de dramatique quelque part. Voilà, ça c'est la première vérité. Deuxième vérité, la victoire de l'amour est certaine même si elle n'est pas visible. Parce que si c'est très chrétien. La victoire de l'amour est certaine, même si elle n'est pas visible. Non seulement Dieu dirige le monde et le mène à son salut, mais nous savons qu'il a déjà obtenu la victoire définitive sur le mal. En mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus-Christ a définitivement vaincu les puissances des ténèbres. Ça, c'est vraiment le cœur de la foi, c'est Pâques. Hein. Donc ça tombe bien qu'on évoque cela. Pour prendre une image, la situation que nous vivons est un peu comme celle des Alliés à la fin de la guerre de 1944, plusieurs mois après le débarquement, il devenait évident que les Alliés gagneraient la guerre et que les armées allemandes seraient vaincues. Mais cela n'a pas empêché les combats jusqu'au 8 mai 1945. Ces combats étaient vains car la victoire était certaine. Et pourtant, ces combats ont été très meurtriers. Nous sommes exactement dans cette configuration vis-à-vis de l'histoire. Jésus-Christ a vaincu le mal, il a vaincu la mort, mais la guerre semble continuer. Et pourtant, la victoire est acquise. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. « Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Nous sommes vainqueurs. Même si le combat est compliqué, est difficile, et que le seul signe que nous avons est celui du tombeau vide, pour quelqu'un de l'extérieur, la victoire de Jésus n'est pas visible du tout. Le tombeau est vide. Mais pour nous, c'est une réalité acquise. Ainsi, la deuxième vérité qui nous aide à être toujours dans la gratitude est celle-ci, sous l'apparence de la défaite, pour celui qui n'est pas croyant, la victoire du Christ se réalise pleinement, Dieu triomphe dans l'apparence d'une défaite. Ça, c'est assez intéressant comme manière d'exprimer. Dans une apparence, Dieu triomphe dans une apparence, dans l'apparence d'une défaite, dans la croix et le tombeau vide. Alors le tombeau vide, nous on sait que c'est la résurrection, mais c'est vrai que, non, on aimerait hein, que Jésus envoie des éclairs dans tous les sens, mais ça ne marche pas comme ça. Troisième vérité, par sa toute-puissance, Dieu tire le bien du mal. Par sa toute-puissance, Dieu tire le bien du mal. Alors là, c'est sûr que, ça c'est le mystère de la croix, mais qui s'applique après à toute la vie. La manière d'agir de Dieu est très déroutante pour nous. Il n'empêche pas le mal de se produire. On est obligé de le constater. Hein. Mais il est vainqueur du mal et du péché en les prenant sur lui. Citation de saint Augustin. Dieu n'est en aucune façon, ni directement, ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant. Respectant la liberté de sa créature. Et mystérieusement, il sait en tirer le bien, car le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était pas assez puissant et bon pour en faire sortir le bien. Donc Dieu tire du bien de tout, y compris du mal. C'est le mystère vraiment de la croix, parce que dans le mystère de la croix, c'est vraiment ça, c'est ce renversement. Le pire mal de l'époque, enfin, il devient source de salut. Dieu, par sa toute-puissance, est capable de tirer le bien du mal. Donc voilà, ça va? Ça vous a convaincu? Quatrième vérité, Dieu m'aime d'un amour éternel et me poursuit de sa miséricorde. Alors ça, j'aime bien, parce que c'est très thérésien. Dieu m'aime d'un amour éternel et me poursuit de sa miséricorde. Dieu m'aime et il aime chaque être humain en particulier depuis toute éternité. Cette vérité est affirmée dans toute la Bible. Mais de plus, non seulement il m'aime, mais en plus il me poursuit. Alors pour le livre biblique qui exprime cela, c'est le Cantique des Cantiques. Qui est aussi un cantique de l'amour nuptial des couples, mais c'est aussi l'amour de Dieu pour nous. C'est la même image. Dieu me poursuit inlassablement de sa miséricorde. Nous pouvons remettre tout ce qui nous pèse dans le cœur de Dieu, et aussitôt il l'efface. C'est le pardon de Dieu que l'on peut recevoir dans le sacrement de réconciliation. La confession est la chose la plus incroyable qui existe. Moi, je dois vous témoigner que c'est dans la confession que j'ai vu le plus de conversions. Parce que c'est vrai qu'il y en a à la messe, des conversions, mais je ne suis pas aux côtés à ce moment-là, donc je le vois moins bien. Mais quand même, dans la confession, c'est incroyable. Et souvent, quelqu'un qui vit une expérience très forte à la messe va finalement se tourner aussi vers le sacrement de réconciliation. C'est vraiment le sacrement de la résurrection et de la conversion. Bon. Alors ça renvoie à sainte Thérèse de Lisieux, l'amour infini de Dieu, cet amour qui me poursuit, qui m'aime plus que je pourrais imaginer. Donc Dieu est fidèle dans son amour. Et cinquième vérité, et dernière, Dieu me donne sa grâce à chaque instant et il veut mon bonheur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, dit le psaume 22. Un très beau psaume, le psaume du baptême. Dieu veut notre bonheur. Ainsi, dans Jérémie, le Seigneur nous assure, « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Peut-être qu'on a souffert parfois dans le christianisme de développer l'aspect du mystère de la croix de façon morbide, hein, où il manquait cette espérance qui est très présente chez les chrétiens orientaux, dans leur liturgie en particulier. Je dis ça en passant. Bon. Mais chez nous, on voit la liturgie latine est une liturgie très très sobre, très dépouillée, et finalement, où le mystère de la croix de Jésus crucifié est très très mis en avant, et c'est bien parce que c'est notre salut, il faut l'adorer, mais parfois ça nous a joué des tours. Et le tour, c'est qu'on voit pas, on n'a pas mis assez d'espérance, et on n'est pas assez dans une gratitude vis-à-vis de ce qui se passe devant nous. Voici le témoignage de Sainte Faustine, dans son petit livre, le petit journal, qui montre combien les dons de Dieu à notre égard sont extraordinaires. Dieu m'a accordé la connaissance des grâces dont il me comble sans cesse. Cette lumière m'a pénétré très profondément et j'ai alors compris les inconcevables égards de Dieu envers moi. Je suis resté dans ma cellule pour une longue action de grâce, allongé, le visage contre terre. J'ai versé des larmes de gratitude. Je ne pouvais me relever, car chaque fois que je le voulais, la lumière de Dieu me donnait connaissance d'une nouvelle grâce. Prendre conscience, voilà. Dieu me donne la grâce et il veut mon bonheur. Voilà, en conclusion, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà, donc ces cinq vérités peuvent nous aider aussi à regarder notre vie différemment, parce que en tant que chrétien, on peut les regarder grâce à ça. Donc, le monde est dirigé par Dieu, qui est bon, malgré donc les apparences. La victoire de l'amour est certaine, même si elle n'est pas visible, même si la guerre continue. Non, par sa toute-puissance, Dieu tire le bien même du mal. Dieu m'aime d'un amour éternel et me poursuit de sa miséricorde. Et Dieu me donne sa grâce à chaque instant et veut mon bonheur, c'est son souhait. Dans la conclusion, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà. Et ces cinq vérités nous aident à vivre dans la gratitude à chaque instant, même quand nous arrive des tuiles. Voilà, alors donc, maintenant, nous allons conclure, hein, parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais ça fait une heure que je cause. Donc, vous avez des exercices sous vos livrets, donc je vous inviterai à en prendre connaissance, on ne va peut-être pas les relire, hein. 3 kiffs par jour, donc ça fait très moderne, ça modernise mon langage. Voilà, lister 15 moments exceptionnels dans ma vie. Hein, donc ça, c'est donc faut prendre un peu de temps. Hein. Ça tombe bien en carême, on essaie de prendre du temps pour autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Donc, alors, je vous encourage à continuer à prier comme vous aviez prévu, hein, les engagements de prière, voilà, de jeûne et de charité, mais rajoutez ça. Ça un petit moment en plus. Voilà, deuxième pensée de la journée, prière pour passer la journée dans la gratitude. Voilà, et Seigneur, je te bénis pour cette journée. Enfin voilà, pourrais le faire. Voilà, et puis quatrième exercice, renouveler mon regard. Donc là, il y a l'exemple de Pascalide qui parle du fait que, et ça, moi j'avoue que quand je l'ai lu, ça m'a interpellé aussi, c'est que bien souvent on fait des choses et on n'apprécie plus les choses habituelles. Et donc il disait qu'il passait, en allant au travail, il passait devant dans la coupole de Saint-Pierre majestueuse et en fait il ne faisait pas attention et que d'un seul coup il a commencé à regarder ça tous les matins et il s'est émerveillé tous les matins. Et nous, sans doute, c'est un peu la même chose. Voilà, quand moi je vais à l'église, voilà, on peut regarder, tiens, mais super, le temps, voilà. Même quand il pleut, La pluie, c'est pas moche, hein, la pluie. Ah, bon. Non, mais c'est vrai, c'est humide, mais c'est pas moche. Voilà. Et puis, cinquième exercice, prendre conscience de la vie. Voilà, je suis attentif dans ma journée à prendre conscience des beaux moments que je vis. Ça, c'est des petits exercices à faire le soir, je vous conseille, avec votre examen de conscience, rajoutez ça, c'est parfait. Voilà, très bien. Voilà. Alors, donc ça, j'ai encore noté des trucs. S'engager dans la durée et chaque jour. Donc, d'accord. Voilà, ben c'est bon. Non, mais en fait, j'ai dit des trucs. Donc, voilà, il y avait assez de livrets pour tout le monde. Tout le monde a un livret. Je regarderai s'il en reste, que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais qui viendront les prochaines fois, parce que c'est les vacances. Voilà. Et voilà. Vous avez aussi une corbeille, au fond, pour faire éventuellement une petite offrande pour financer les livrets. Hein. Parce que ça, je me suis acheté moi-même. Mais les livrets pour la paroisse. Hein. Moi, c'est pas pour moi, évidemment. Pensez bien. Je suis sorti du matérialisme. J'essaie, c'est pas sûr. Bon, voilà. Merci, puis donc à la semaine prochaine. Alors, on va rendre grâce. On va chanter un chant à Marie avant de nous quitter.